au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre.
Rendez-vous compte, c'est déjà demain le début d'une nouvelle saison à MLS, début d'une nouvelle saison, d'un nouveau calendrier pour l'Impact de Montréal qui affronte les Whitecaps de Vancouver en Colombie-Britannique. Et on s'approche du premier match local également de l'Impact qui aura lieu ce samedi 17 mars au Stade olympique ici même. Et question de mettre la table pour cette saison, c'est avec grand plaisir que j'accueille celui qui devient l'un des visages qu'on reconnaît de plus en plus au Québec et à Montréal quand on parle de l'Impact de Montréal. Il est arrivé avec l'organisation en août 2017 et occupe une place de plus en plus prépondérante dans cette équipe-là. Et on va voir comment ça évolue sous maintenant l'égide de Rémi Garde. Et il s'agit de Samuel Piette qui est avec nous. Salut Samuel.
Salut Mario, ça va bien?
Ça va très bien, merci. T'as passé un bel hiver?
Oui, oui, assez froid, mais non, ça faisait du bien d'être à Montréal pour une fois, là.
Froid et actif aussi, oui. Parce qu'il semble que le camp, en tout cas des échos qu'on entendait ou de ce qu'on pouvait lire à travers la couverture du camp de l'Impact, ça a été assez exigeant.
Oui, très exigeant. Ça a été découpé en deux parties, je te dirais. La première était une semaine à Miami. Je pense que ça a été celle-là la plus dure. Trois entraînements par jour, trois sessions en fait. Le matin était toujours consacré au physique. Donc, la matinée très tôt, on avait une activation musculaire qu'on appelait, donc une vingtaine, trentaine de minutes à vélo. Ensuite, on revenait, déjeunait, on repartait dans un parc où il y avait un petit lac, un lac d'environ, du cours alentour, c'est 2,5 km. Donc, on faisait des tours du lac le matin. Donc, non, c'était très exigeant. Puis, en après-midi, une séance sur le terrain, un peu plus soccer. Mais non, c'était très, très dur, là.
C'est ton premier camp d'entraînement avec l'Impact de Montréal. Donc, tu peux pas comparer avec ce que Mauro Biello demandait aux joueurs ou ce que les autres auparavant. Mais si tu compares ce camp-là avec ce que tu as vécu en Europe, par exemple, est-ce que ça se ressemble ou c'était une autre philosophie?
Ça se ressemble, mais plus ou moins, je te dirais. En fait, ici, ça a été vraiment... C'est beaucoup plus de voyages, c'est sûr. Étant donné la température, les conditions, fait en sorte qu'on doit partir à l'étranger. Donc, Miami, on est revenu une semaine à Montréal. On est reparti après Las Vegas et Tampa Bay pour presque trois semaines. Je pense que... Qu'est-ce qui était plus dur, surtout, c'est la longue période d'inactivité, en fait, entre notre dernier match et maintenant. C'était là qu'il fallait vraiment se garder en forme pour se préparer, arriver un petit peu en forme, je dirais, pour la pré-saison. Tandis qu'en Europe, là, c'était 4 semaines, 5 semaines, donc c'était vraiment de repos total, puis tu recommençais tranquillement. Mais non, je te dirais que ça, c'est la grande différence, là.
Fait que ça, c'est la responsabilité du joueur, exact, quand même, ouais. De se maintenir en forme, tout sport confondu maintenant, là, au niveau de jeu qu'on présente. Et tu faisais allusion au fait que ça faisait du bien de passer l'hiver à Montréal, parce que ça fait longtemps que tu l'as pas vécu, parce qu'en Europe, tu étais au cœur d'une saison, dans le fond, là.
Exact. À Noël, en fait, on était à la mi-saison. Donc, je revenais en Espagne, c'était une dizaine de jours maximum, si j'étais chanceux. En Allemagne, c'était peut-être un peu plus longtemps, voire deux semaines. Mais, tu sais, encore là, c'était dur d'être inactif pendant ce temps-là, étant donné que quand on recommençait, une semaine plus tard, on avait un match. Tandis qu'ici, c'était vraiment le temps mort, là.
As-tu une idée bien arrêtée, maintenant que tu as eu quand même presque une demi-saison pour te familiariser avec la MLS, du calibre de jeu qu'on a ici en Amérique?
Oui, non, je peux vraiment dire que c'est un très bon niveau, une ligue très physique. Des fois, je fais référence un peu au hockey, c'est un peu plus nord-sud, je dirais, si on peut comparer à certaines ligues en Europe. Mais non, très bon niveau, puis avec les joueurs que la Ligue a maintenant, ça fait en sorte que c'est une Ligue qui prend de plus en plus d'ampleur, là.
Est-ce que c'est un style de jeu qui te convient ou parfois tu t'ennuies du style de jeu dans lequel tu pouvais évoluer en Europe?
Ça me convient, mais c'est sûr qu'il y a des trucs que j'aimais mieux de l'Europe. C'est plus demandant physiquement, donc on court beaucoup plus. Mais bon, moi, c'est ça mes qualités. Je couvre beaucoup de terrain, très fort physiquement. Donc, ça joue dans mes qualités. C'est un style de jeu qui vient me chercher. Mais en Europe, c'est un jeu un peu plus posé, possession de ballon. Ce que j'aime aussi, avoir la balle, de contrôler le jeu. Donc, c'est un peu un mélange des deux. Mais comme j'ai dit, ça vient chercher mes qualités, là.
Pourquoi ça court plus ici?
Je sais pas. C'est peut-être le fait de la mentalité, comme je dis, un peu plus nord-américaine, nord-sud.
Excuse-moi l'expression typiquement hockey, mais forecheck, là, exact, on va dire, exact. Avoir pression sur le porteur.
C'est ça, on peut pas domper le puck en avant parce que bon, il y a une ligne, là. Mais non, c'est peut-être dès qu'on a l'occasion d'enfiler les buts, d'enchaîner les buts, tandis qu'en Europe, c'était peut-être un peu plus stratégique de garder le score à 0-0 le plus longtemps possible.
Il faut peut-être voir un match sur place. Quoi qu'à la télévision, c'est assez éloquent, parfois avec les reprises, là, mais peut-être qu'une des dimensions les plus sous-estimées de ce qui est exigé d'un joueur en MLS, c'est vraiment la dimension physique. Mm-hmm. Tu sais, les têtes à tête pour l'obtention d'un ballon, puis ça joue du coude puis de l'épaule, justement, pour aller chercher sur sa part de territoire pour récupérer les ballons. C'est vraiment très intense, très physique, la MLS. Hein?
Ouais, puis dans cette ligue-là, il y a des gros bonhommes, des gros joueurs qui ont des bons gabarits. Je sais que les Américains sont très, très focusés sur le physique, l'entraînement physique, le gym. T'affrontes des joueurs qui sont plus grands, plus costauds. Moi, en plus, je suis un petit joueur. Donc, c'est pas nécessairement mon avantage. Mais non, c'est un jeu intéressant que je pense que les fans aiment bien, là.
Dirais-tu que l'Impact a une petite équipe, physiquement parlant? Bon, je sais qu'il y a eu des acquisitions, mais on vient de perdre un grand joueur en Swan Camara, qui est maintenant derrière un micro. Diallo est un grand bonhomme, mais là, on l'a perdu pour la saison. Mm-hmm. Est-ce que ça va rester un défi pour ce qu'on appelle les jeux aériens, qui a semblé poser certaines difficultés à l'Impact, je trouve, au cours des dernières années?
Ouais, ben, je crois que c'était une de nos lacunes, c'est sûr, avec l'acquisition de Zakaria, faisant en sorte que, bon, on avait un grand bonhomme derrière qui pouvait gagner des duels aériens. Là, comme tu as dit, malheureusement, on l'a perdu. En général, je dirais qu'on a quand même une assez petite équipe. Mais bon, on compense ailleurs. On a des joueurs qui sont petits, mais techniquement très, très forts. Si on regarde Nacho, c'est pas le plus physique, mais est capable d'enchaîner les dribbles, de battre ses adversaires. Saphir, Tyder, même chose. On a Jason Vargas, un Chilien qui est très, très petit, là, même voire plus petit que moi, mais très habile avec la balle. Donc, c'est sûr que dans les airs, ça va être peut-être une de nos lacunes, mais on va compenser avec d'autres habiletés, là.
Quand tu penses à la saison qui commence donc demain dimanche, le 4 mars, Samuel Piet, est-ce que c'est difficile pour toi, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus par rapport à ce que l'Impact peut faire, puis par rapport à ce que les autres équipes ont assemblé comme formation, est-ce que c'est difficile de te dire « Hey, je pense qu'on a un club qui peut faire les séries » ou c'est les premières semaines qui vont nous en révéler davantage?
Ouais, c'est dur à dire pour l'instant. C'est vraiment, comme tu dis, les premiers matchs qui vont donner le rythme, qui vont donner un genre d'aperçu de qu'est-ce que les équipes sont capables de faire. Je sais que nous, on a changé beaucoup, les joueurs, le staff aussi, les équipes ont fait de nouvelles acquisitions aussi. Donc, c'est un peu, on dirait, un nouveau départ pour tout le monde, un genre un changement de formation un peu pour tout le monde. Donc, c'est un peu de l'inconnu là, pour certaines équipes.
Tu sembles enthousiaste, cependant.
Oui.
Et pourquoi?
Ben, il faut, c'est sûr. Avec la saison qu'on a eue l'an dernier, je pense qu'on peut pas faire pire ou ça peut seulement que s'améliorer, je pense. Puis comme je l'ai dit, avec un nouveau staff, des nouveaux joueurs, on repart à zéro. Donc, il faut partir positivement. C'est sûr que déjà, en partant, si on commence avec une attitude négative, ben on part avec...
Ça compte, ça, pareil. Hein? Oui. L'attitude avec laquelle tu arrives, puis il faut que tu retrouves un maximum de joueurs, puis faut que tout ça colle ensemble. C'est ça le défi de chaque équipe à chaque année, tout sport confondu.
Hein? Exact. Si on a une attitude positive, je crois que ça peut seulement bien aller pour nous. C'est ça, si tu pars déjà avec une attitude négative, tu pars avec une prise. Donc, non, moi, je vois ça du bon côté, puis on se plaindra quand les choses vont mal. Mais pour l'instant, là, tout va bien.
C'est pas évident pour un joueur de commenter le travail de son nouveau patron, du nouvel entraîneur, Rémi Garde. Mm-hmm. Mais je te demande, partage-nous un petit peu ce que tu ressens là depuis que Rémi Garde a pris charge de cette équipe-là à Montréal.
Ah, très content. Autant de lui en tant que tel que son staff a amené des adjoints qui sont de haut niveau, qui ont entraîné des grandes équipes dans des grands championnats. Rémi et son staff, on voit que c'est des anciens joueurs aussi, ce qui nous apporte un plus pour nous. On voit qu'ils ont l'aspect tactique, nous donnent des petits trucs sur le terrain, mais aussi nous donnent leur point de vue en tant que joueurs. Donc, eux ont déjà été joueurs avant. Donc, c'est facile pour eux de voir comment nous, on voit ça, de se mettre dans notre peau. Donc, ça, c'est un point positif là, de ce staff-là.
Je te demande ça comme ça, Samuel, par rapport à ce que tu as vécu en Europe. Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné ici, là, dans la MLS?
Bah, c'est dur à dire. Beaucoup de choses. Comme j'ai dit, très physique. Les joueurs vont vite. Surtout les joueurs de couloir, c'est facile de répéter les efforts. De haut en bas, ça défend, ça l'attaque. On voit même des fois en fin de match une baisse d'énergie, donc le jeu s'agrandit un peu plus. Là, ça devient encore plus nord-sud. Mais ce qui m'a impressionné, c'est les joueurs, c'est ceux de haut calibre qui venaient d'Europe pour terminer leur carrière. On dit ça souvent de la Ligue, que c'est une Ligue que les joueurs viennent terminer leur carrière. Là, ça change, qui est une bonne chose. Mais quand tu vois des David Villa, des Bastian Schweinsteiger qui jouent contre toi, là, c'est très impressionnant. Là.
C'est prestigieux pour toi?
Ouais, parce que c'est des joueurs...
Tu étais sur le même terrain qu'eux autres en Europe, tu n'étais pas dans la même ligue que ces gars-là.
Non, moi, j'étais dans des divisions un peu plus basses. C'est des joueurs que je regardais. Moi, j'étais en troisième division. Après, je voyais David Villa qui jouait avec la Barcelone en première division. Puis là, j'ai joué contre lui il y a même pas une semaine. Donc, ça fait un petit... c'est spécial. C'est spécial de voir qu'aujourd'hui, j'affronte ces joueurs-là. Puis non, c'est prestigieux, c'est sûr.
Milieu de terrain avec l'Impact de Montréal. Samuel Piette est notre invité aujourd'hui. On s'arrête le temps de quelques messages et nous vous revenons dans un petit moment.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Voilà, de retour avec notre invité aujourd'hui, Samuel Piette, à la veille de l'ouverture d'une nouvelle saison, d'un nouveau calendrier régulier pour l'Impact de Montréal en MLS contre les Whitecaps de Vancouver, demain dimanche, très bientôt à Montréal, samedi 17 mars contre le Toronto FC. À quel âge as-tu commencé à jouer au soccer, au foot, toi, Samuel? À quel âge t'es tombé en amour avec ce sport-là?
J'ai commencé à jouer quand j'avais 4 ans. En amour, je te dirais, c'est un grand mot. C'était plus une passion, là, un passe-temps pour mon début.
Faisais-tu bien des sports ou c'était ton sport?
C'était mon sport, je te dirais. Là, aujourd'hui, je fais plus qu'un sport, en fait, pas compétitivement, dans une ligue, juste pour le plaisir. Donc, l'hiver, j'aime bien aller à la patinoire à côté de chez moi, jouer au hockey. L'été, jouer au tennis, j'aime bien, le golf même. Mais non, le foot, le soccer, ça a toujours été mon sport de prédilection.
À quel âge tu as commencé à penser, dire j'aimerais ça jouer du grand calibre ou jouer dans une ligue prestigieuse au soccer professionnel?
Assez tard, je te dirais. Moi, comme j'ai dit, je jouais au soccer pour m'amuser. C'est rendu aux équipes du Québec, je te dirais, au Jeux du Québec, en fait, là, qui était à Sept-Îles avec mon équipe Lanaudière, mon équipe régionale. Après le tournoi, on avait gagné le tournoi en deuxième division. Je reçois une lettre, je suis invité aux équipes du Québec, je connaissais pas trop. J'en parle avec mes coéquipiers, eux savaient déjà c'était quoi. Je dis bon, ben, on va aller là, puis on va voir comment que ça se passe. Je fais un entraînement. Moi, je me dis, bah, c'est juste un entraînement pour voir c'est comment, c'est terminé.
T'as quel âge à peu près dans ce temps-là?
J'ai 13 ans.
Okay.
Donc, à 13 ans, bon, en équipe du Québec, on reçoit une autre invitation pour la semaine prochaine. Bon, on va aller voir que ça, de semaine en semaine, ça allait. Finalement, on fait les championnats canadiens. Bon, moi, pour moi, c'était le top. Je pensais qu'il n'y avait plus rien. Je connaissais l'Impact, mais je me disais que je connaissais pas trop comment ça marchait. Donc, c'était pas dans ma catégorie, c'était pas dans ma ligue. Je n'y pensais pas trop. Je reçois une invitation pour les équipes du Canada du 7. Je sais pas trop c'est quoi. Je m'informe, on va y aller. Fait que c'est vraiment, je te dirais, aux équipes du Québec, aux équipes du Canada 17 ans. Moi, à l'époque, j'avais 15 ans. Que là, je me rends compte que bon, là, je représente mon pays. C'est quand même assez gros. Puis là, je me suis intéressé un peu plus comment que ça marchait, les équipes, les ligues, puis tout ça. Là.
Fait que tu n'avais pas réalisé que tu avais du talent, non. Ou que tu étais bon assez pour te faire remarquer? Ou
pas que j'avais pas de talent. Je veux dire, je savais que j'étais un des bons de mon équipe. Comme je t'ai dit, là, à 13 ans, 12-13 ans, au Jeu du Québec, j'étais un des bons de mon équipe.
Jouais-tu en avant à marquer des buts ou tu jouais en milieu de terrain? Parce que c'est pas évident terrain. Toujours d'identifier c'est qui est bon d'une équipe de soccer. Il y a tellement de monde sur le terrain, il faut que tu connaisses ça là, pour savoir c'est qui permet aux autres de se démarquer puis de jouer. Là.
Ouais,
que...
ben à cet âge-là, tu sais pas nécessairement c'est quoi tes qualités ou t'es bon pour marquer des buts ou t'es grand, t'es physique, on va te mettre à l'attaque parce que tu es fort et tu cours vite. Donc on va te mettre à l'attaque. Moi, j'étais un milieu de terrain, mais offensif. Donc j'étais bon avec le ballon comparé à d'autres. Donc on m'a mis un peu plus à l'avant. Mais c'est rendu aux équipes du Québec, le niveau a augmenté, puis j'avais des qualités pour jouer un peu plus derrière. Donc au début, tu sais pas trop, tu cherches un peu. Les coachs t'essayent à différentes places, puis finalement, là, quand ça commence à devenir un bon niveau, là tu te places, puis...
Puis d'invitation en invitation, ça grimpe de calibre. Là. Tu passes des équipes du Québec, là, équipe Canada, 17 ans. Là, à toutes les fois, faut que tu te reprouves. Comment tu as vécu l'ascension étape par étape?
Oui, puis même aux équipes du Québec, on commence, on est peut-être une cinquantaine de joueurs. La semaine d'après, on est une quarantaine, trentaine, vingtaine. Donc, ça descend de plus en plus. Donc
Et tu dis, je suis encore ici. Oh.
Exact. Là, tu te dis, ah, je suis encore ici. Ben, c'est pour une raison en particulier. Mais non, c'est je crois que d'avoir cette mentalité-là, ça l'a fait en sorte que je me rende aussi loin parce que je me mettais jamais de pression. Là.
OK. Ouais. Donc, au niveau de la gestion des émotions, en as-tu vu des peut-être que tu considérais des gars plus talentueux que toi qui se sont pas rendus?
Ouais, beaucoup. Trois quarts des gens que je connais, même plus. Si on regarde aujourd'hui tous les joueurs qui étaient avec moi, on parle des équipes du Québec à 14 ans. Il n'y en a pas un qui est rendu à l'Impact aujourd'hui où pas mal tout le monde a lâché à 17, 18 ans quand ils voyaient que ça ne marchait pas avec l'équipe du Canada. C'est triste, mais bon, c'est la réalité du soccer au Québec. Là.
Fait que tu n'as jamais eu, toi, la claque, si tu veux, d'être rejeté parce que ça t'as passé partout où tu as été auditionné, si tu me passes l'expression. Là.
Non, j'ai jamais eu d'échecs, je te dirais, de gros échecs. C'est sûr que bon, il y a des entraînements que ça va moins bien, des matchs, puis tu te remets en question, tu te dis ah, bah, c'était peut-être la fin, mais jamais de coupure pour dire ah, tu fais pas l'équipe ou fait que j'étais chanceux. Mais comme je l'ai dit, avec l'approche que j'avais, j'allais jamais avoir vraiment de déception. Là.
Là, avec l'équipe canadienne, t'es encore jeune, puis t'as l'occasion de vivre des expériences internationales.
Mmh. Ouais.
Là, t'as quoi, 17 ans à peu près, autour de 17 ans que ça se passe?
Ouais, 17 ans, quand j'ai... Ben, en fait, c'est l'équipe du Québec, du Canada de 17 ans. Moi, j'avais 15-16 ans, j'avais un an plus jeune. Attendez, je suis né en fin d'année. Puis, commence à faire des voyages en Jamaïque, en Honduras, des pays comme ça, pour affronter des équipes qu'on allait affronter pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Fait que non, pour moi, c'était un peu la première fois que je voyageais aussi, avant d'aller en France, où j'ai joué. Donc non, c'était une belle expérience.
Et comment, justement, la France se présente à toi?
En fait, c'est mon entraîneur à l'époque, avant de partir en France. Moi, j'ai joué à Beaubriand. C'est mon entraîneur, Lynn Beauregard, qui connaissait le directeur du centre de formation là-bas. Il était très bon ami, donc m'a envoyé pour un genre de stage-essai pour une période d'un mois. Donc, j'ai fait un mois là-bas, puis encore là, je me suis dit, bon, ben, je fais un stage d'un mois, je reviens, puis je continue ma saison ici. Puis là, le club, le directeur est intéressé, m'a demandé si j'étais intéressé à faire une année complète. Donc, je lui ai dit que c'était une opportunité pour moi, je l'ai pris, puis je suis parti pour une année. Là.
Fait que là, tu te retrouves en Europe à un assez jeune âge, là, à t'éloigner de la famille, des parents. Là, c'est tout un bouleversement de vie, parce qu'à un moment donné, c'est passé d'un essai d'un mois, quelque chose de plus long, plus considérable, et tout ça toujours en France, parce que là, tu t'es promené d'un pays à l'autre en Europe également. Là.
Ouais, donc la première fois, j'ai fait en France 2 ans. Comme je l'ai dit, je suis parti à 14 ans, donc c'était un peu un choc, c'est sûr. Tu pars tout seul, tu laisses ta famille, tes amis, ma copine à l'époque. Donc non, c'était très, très dur. Il fallait que je continue l'école. Moi, je voulais terminer l'école. J'étais en secondaire 3, si je me rappelle bien, à l'époque. Donc, il me restait encore 2 ans et demi. Donc, tu fais l'école à distance, tu amènes tous tes manuels là-bas, tu es en contact par mail, tu n'as personne devant toi pour t'expliquer la matière. Donc, c'est très dur. La chose positive, c'est que c'était en France, donc la langue était le français, donc ça m'a aidé. Là, si j'aurais été à 14 ans en Allemagne, là, ça aurait été peut-être un peu plus dur. Là.
C'est quelque chose quand même. Ça a été difficile, grisant, facile, excitant ou déconcertant aussi parfois?
Moi, je dirais que la période en France a été la période la plus difficile de ma vie là, à date pour moi. Comme j'ai dit, je partais tout seul à 14-15 ans, t'es presque en pleine adolescence. T'as ton bal définissant qui s'en vient, des sorties avec les amis, tout ça, l'école. Donc, t'es concentré à t'entraîner le matin, puis après ça, faut que tu te motives. T'as personne devant toi, faut que tu te motives à travailler à l'école pour terminer tes travaux, faire les examens seul. Donc, non, c'était très, très dur. Là.
Puis tes parents, eux autres, comment qu'ils vivaient ça? C'est pas évident là, pour un parent de dire, ben, bonne chance, mon gars. T'sais, ouais. T'écoutes, t'as 14 ans, là, je sais pas comment j'aurais géré ça.
ben, ils ont bien géré ça, mais de ce que je sais. Après, ils ont peut-être caché leurs émotions. C'est sûr qu'ils ont été un peu, pas déçus, mais ils ont eu de la peine de me voir partir.
C'est une brisure, pareil.
Ouais,
hein?
Surtout que je suis enfant unique en plus, donc il n'y avait personne d'autre à la maison. La maison devait se sentir un peu vide, là, plus vide qu'avant avec ma présence. Donc, non, ça a été dur pour eux, c'est sûr, mais ils m'ont toujours supporté. Mes parents, c'est pas des gens qui mettent beaucoup de pression pour avoir du succès. Là, c'est, regarde, tu fais ce que tu veux, puis non, tu supportes à 100%. Donc, j'ai été très chanceux. Là.
Restais-tu dans une famille là-bas?
En France, c'était on appelle ça un centre de formation. Dans le fond, c'est un bâtiment, un building où que tous les joueurs étrangers restent. Il y a une personne en charge avec une cuisine, un chef, tout ça. T'es bien pris en charge. Donc, on avait quelques Sénégalais, les joueurs qui venaient d'ailleurs en France, un peu plus loin, qui ne pouvaient pas rester chez leurs parents. Donc, j'ai été chanceux là, de ne pas être laissé à moi-même dans une famille ou en appartement dès l'âge de 14 ans. Là.
Un Québécois qui s'en va s'essayer dans le monde du soccer en Europe, mm-hmm. compte tenu qu'on n'a pas de grandes racines dans ce sport-là, est-ce que tu arrives là un peu avec des complexes ou tu as une espèce de naïveté dans tout ça?
Il y en a, c'est sûr. Je pense que tu pars avec un désavantage. Déjà, en partant, aller en Europe avec un passeport canadien, c'est un des plus durs passeports. En fait, le passeport canadien, pour toute autre chose, est un très bon passeport, mais pour le foot, c'est très, très compliqué.
Ah ouais?
Il y a des lois en Europe que chaque équipe a le droit à un certain nombre d'étrangers. En fait, en dehors de l'Union européenne, mais là, il y a des exceptions. Les Africains comptent pas, les Sud-Américains. Donc, Nord-Américain, t'es compté comme un étranger. Donc, à la fin, par exemple, moi, mon équipe à l'époque, avant que je change de pays, avait le droit à 3 étrangers, il y en avait 2. Il y avait le choix entre moi ou un Brésilien. Donc, Canadien, Brésilien, tu te dis, le Brésilien, c'est dans son sang, sa culture, on va prendre le Brésilien, va peut-être nous apporter un peu plus. Donc, non, c'est difficile. Les gens pensent pas nécessairement qu'on joue au soccer au Canada, étant donné qu'on n'est pas une puissance mondiale. Donc, non, je pense qu'on part avec un handicap, là.
Je reviens à, au fait que quand t'as du talent, là, puis il y en a beaucoup qui l'ont vécu dans différents sports, mais quand t'as du talent très jeune, t'as l'impression que ton sport vient un petit peu t'enlever à la vie que tu vis normalement dans ton milieu. T'as sûrement eu ce sentiment-là, et tes parents également ont eu le sentiment que ton talent, il venait un petit peu leur enlever leur fils unique, hein?
Ben, ça a été ça, ça a été ça. Je veux dire, moi, je suis parti parce que les recruteurs, les gens de là-bas ont vu que j'avais un talent. Donc, m'ont pris sur l'oreille, m'ont emmené là-bas. Comme j'ai dit, ça l'a fait en sorte que j'ai jamais vécu mon adolescence ou les sorties avec mes amis d'enfance, les parties de famille au jour de l'an, des trucs du genre. Donc, mais bon, ça l'a amené d'autres trucs positifs, là, d'autres choses dans la vie. Là.
Bien sûr, et aujourd'hui, quand vous pensez à tout ça, quand tes parents te regardent dans l'uniforme de l'Impact, devenir un des visages les plus visibles, reconnaissables de cette organisation-là, même chose pour toi, il doit y avoir un sentiment de fierté qui vous anime tous, les trois, là, tes parents et toi.
Oui, c'est sûr, sentiment de fierté ou sentiment aussi de... Comment je dirais ça? Pas de soulagement, je dirais, mais de tous ces efforts-là, ces sacrifices-là, ben, on menait à ça. Donc, c'est plaisant de voir que j'ai pas fait ça pour rien, là.
Ouais, puis de réconcilier les agendas, puis d'être sur le même continent, vous retrouver, là.
Ouais, non, ça fait du bien d'être à Montréal, de voir la famille, là. Je suis plus chez mes parents, mais de les voir une fois par semaine et non une fois par 6 mois. Donc, ça fait plaisir, puis ça fait du bien, là.
Samuel Piette est notre invité aujourd'hui. L'Impact qui amorce une nouvelle saison régulière demain contre les Whitecaps de Vancouver. Demain à 18h, heure de l'Est. On revient pour la suite de cet entretien dans un petit moment.
Mario Langlois rencontre au réseau Cogeco.
Voilà, retour avec notre invité Samuel Piette, milieu de terrain avec l'Impact de Montréal. Je sais que tu étais en entrevue avec Assun Camara dernièrement, qui est passé derrière le micro là, avec TVA Sport, puis tu vas porter son numéro.
Hein? Oui.
Ouais, c'est un honneur. Les changements de numéro, là, c'est explique-nous comment ça marche dans le soccer. Hein? Il y a une tradition très particulière par rapport au numéro dans le soccer. Hein?
Oui, bien en fait, chaque position sur le terrain a son numéro. Donc en fait, un gardien a le numéro 1. Pas nécessairement sur son maillot, mais on dit le numéro 1 ou le milieu offensif, c'est le numéro 10. Moi, ma position, c'est le numéro 6. C'est le numéro que j'ai toujours aimé. Donc, je voulais porter le numéro 6. C'est Assun qui l'avait à mon arrivée. Maintenant qu'Assun a pris sa retraite, a changé de vocation, j'ai demandé si c'était possible de porter son numéro qui me le lègue. Et il a accepté tout de suite. Donc, je suis content d'avoir son numéro là.
Il y a comme une courtoisie, un respect. Là, puis je sais qu'il y a eu une histoire autour du numéro 8 aussi de Patrice Bernier. Est-ce qu'on devrait le retirer compte tenu de ce que Patrice a représenté pour le soccer? Puis on a vu que Patrice, là, gracieusement, lui aussi, un petit peu comme Assun, dit non, c'était un autre de le porter. Hein,
Ben, tu sais, Patrice, Assun, c'est deux très bonnes personnes. Pas selfish, là, cherche le mot en français. Donc,
ils sont généreux, altruistes un peu. Peut-être.
Exact. Donc, de donner leur numéro, de passer flambeau un peu ou de faire plaisir à quelqu'un d'autre, parce que je crois que sa fille voulait aussi le numéro 8. Ça leur fait plaisir. Puis, non, comme j'ai dit, c'est des bonnes personnes.
Des gars qui t'ont bien accueilli l'an passé aussi.
Ouais, très bien, très bien. Là, Patrice, parce que je connaissais d'avant, m'a énormément aidé à mon intégration à l'équipe, à l'Impact. Donc, je suis content d'avoir fait mon arrivée quand lui est encore là.
Qu'est-ce qu'il représentait, Patrice Bernier, pour l'Impact de Montréal, du point de vue des joueurs?
Du point de vue des joueurs, une personne très respectée, c'est sûr, par son histoire, son talent, parce que c'était un joueur qui avait énormément de talent malgré son âge. Je pense qu'il aurait pu encore continuer. Là, je l'agace un peu encore des fois. Un gars de la place, c'est sûr, c'est le capitaine. Mais Patrice, pour moi, c'est une légende québécoise. C'était un peu mon modèle avant parce qu'on a un peu le même parcours. Il était en Europe et revenant à l'Impact, j'ai fait la même chose. Donc, Patrice, c'est quelqu'un que je respecte puis c'est un très bon ami en plus.
C'est quoi gagner le respect de tout le monde quand on joue au soccer professionnel? Comment on fait ça en termes de performance, je comprends bien, mais en termes de relations puis de l'adversaire aussi parce qu'on a senti beaucoup de respect des adversaires envers Patrice Bernier pour un paquet de choses des fois qui sont peut-être pas toujours perceptibles à l'œil nu pour le spectateur moyen.
Ben c'est sûr que la meilleure manière de gagner le respect, tu l'as dit, c'est sur le terrain. C'est bien beau avoir quelqu'un qui est gentil, qui est très généreux, mais si la personne sur le terrain performe pas, les joueurs vont peut-être avoir pas une dent contre toi, mais vont dire bon ben ce jour-là on peut pas trop compter sur lui. Donc ça c'est la meilleure chose en fait. Après c'est de s'impliquer, de toujours être libre. Patrice comme je l'ai dit, moi m'a aidé à mon intégration. Il est autant généreux avec les vieux que les jeunes, toujours là pour aider. Donc, dans un vestiaire, avoir une personne comme ça, c'est primordial, c'est très important. Mais Patrice, c'est quelqu'un qui s'est impliqué autant dans l'équipe que dans la ligue. Je sais qu'il faisait beaucoup d'entrevues dans la ligue et faisait partie de l'Union des joueurs, donc le syndicat, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui aimait s'impliquer là.
C'est quoi le sentiment dans cette équipe-là, là, qui est en transition quand même avec beaucoup de nouveaux visages, mais vous, de l'intérieur, c'est quoi votre réalité de jouer à Montréal, de séduire le public, d'occuper une place? Je pense que vous occupez une place de plus en plus grande là, mm-hmm. au point de vue médiatique, mais vous regardez ça comment? C'est sûr qu'il y a les points classement, mais il y a l'aspect aussi conquête du marché.
Ouais.
Est-ce que vous êtes conscient de ça, les joueurs?
Je sais pas si tout le monde l'est. D'un joueur qui vient de l'Europe ou d'ailleurs, puis parle pas nécessairement le français, tout ça, peut peut-être pas le ressentir. Mais moi, en étant un gars de la place, c'est sûr que je le ressens. Comme tu dis, l'impact, le soccer gagne de plus en plus d'ampleur, de valeur ici, de plus en plus médiatisé. Donc, c'est sûr que moi, je veux que l'impact, après un match, fasse la une des journaux ou passe en premier avant le Canadien, c'est sûr. Mais je pense que ça va venir avec le temps parce que je pense qu'on est sur la bonne voie. Là.
Est-ce que c'est la première fois de ta vie que tu vis ça, toi, une attention médiatique? Parce que dans un collectif, là, c'est rare que les réflecteurs sont sur nous. Mais depuis que tu es à Montréal, puis aussi à travers tes expériences avec la sélection canadienne, mm-hmm. t'as émergé publiquement. Comment tu vis ça? Tu dois commencer à te faire reconnaître, même de beaucoup, même?
Oui, ça arrive de temps en temps. Puis honnêtement, j'aime ça, c'est sûr. Moi, c'est ma première expérience. Donc en Europe, j'étais toujours l'étranger que personne ne connaît vraiment, qui vient de... le petit bonhomme qui vient gagner la place d'un autre, d'un joueur local. Mais bon, ici, en étant un joueur local qui participe beaucoup, j'ai quand même beaucoup de reconnaissance. Puis c'est toujours, ça fait chaud au cœur de ressentir le support puis de l'amour là, des fans. Là.
Est-ce que les locaux, vous avez une responsabilité par rapport au niveau de confort des joueurs dans votre ville puis dans votre équipe? Vous sentez-vous, il y en a peut-être une qui est officielle, mais non officiellement, sentez-vous que vous êtes comme un pont, un lien entre le public, la réalité puis les joueurs?
Je crois que oui, avec les nouveaux joueurs, c'est sûr qu'on essaye de les aider un peu, de leur dire quelle place est bon pour habiter. Je prends par exemple Saphir et Zacharia se chercher une place pour y vivre. Donc, nous demander est-ce que cet endroit-là, ce quartier-là, c'est un bon endroit pour Zacharia. Je sais qu'il y a trois enfants avec mes trois enfants. Donc, on essaie de les guider un peu, c'est sûr. Mais le club a un bon staff pour ça. Là. On a des bons administrateurs qui les aident, tout ce qui est en dehors du terrain. Mais je pense qu'en étant locaux, c'est bon de faire le lien entre les fans et le club, d'avoir des joueurs comme nous où les fans peuvent s'identifier. Là.
Il y a beaucoup d'intrigues par rapport à ce que sera l'Impact en 2018. Quelle place occupera l'Impact au classement? Je sens un certain enthousiasme, une confiance tranquille qui émerge des semaines d'entraînement. Là, on va vivre les premiers résultats, les premiers matchs. Êtes-vous dans une situation où vous pensez que vous avez ce qu'il faut peut-être pour surprendre les gens qui ne semblent pas avoir des grandes attentes cette année?
Je pense que oui. Je pense qu'on a un très bon groupe, très jeune surtout, comme tu dis, très enthousiaste. Je pense que ça, c'est le mot. Tout le monde est positif, on a une très bonne atmosphère au travail. Là. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ne nous voient pas nécessairement faire une bonne saison. Puis moi, j'aime ça parce que on va les surprendre. En fait, on peut seulement que les surprendre, je dirais. Donc, tant mieux si les gens nous sous-estiment. Ils verront... comment va la saison, puis je suis pas mal confiant. Là.
Vous allez jouer contre Toronto là, dans quelques semaines, le 17 mars, ça va être le premier match local. Il y a Atlanta qui dépense beaucoup de sous également, qui ont eu énormément de succès en entrant dans la Ligue. Mm-hmm. On sent qu'il commence à y avoir une certaine disparité de plus en plus par rapport au montant dépensé dans certains marchés. Ouais. Est-ce que ça commence, comme joueur, là, quand vous regardez ça, est-ce que vous commencez à vous sentir désavantagé au plan compétitif par rapport à cette nouvelle réalité de la MLS?
Ben c'est sûr que quand tu regardes des équipes qui dépensent de plus en plus de millions d'argent pour aller chercher des gros joueurs, tu te dis ben pourquoi nous on fait pas ça? Ou est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est parce que le propriétaire est comme ça? Moi, je me dis que Joey est en place, a un plan. Donc s'il dépense pas des millions pour aller chercher un joueur, c'est parce qu'il a son idée en tête. Puis c'est un businessman, un professionnel, connaît la game. Rémi aussi, avec son staff, s'il aurait besoin de quelqu'un d'autre, lui dirait. Puis donc, je pense que les gens qui sont en place sont là pour le bien du club, donc une raison. Comme je disais, avec l'effectif qu'on a, on a de très bons joueurs. On a Saphir qui vient d'Italie, c'est pas n'importe qui. On a Nacho, donc il faut se mettre confiant avec les aimants qu'on a là pour l'instant. Là.
C'est pas le montant de la masse salariale qui te fait gagner un match nécessairement, je comprends bien aussi. Là.
Non, exact. C'est sûr que tu peux dépenser plus d'argent pour certains joueurs, Mais à la fin, ça joue sur un terrain de soccer. C'est 11 joueurs, 90 minutes, donc tout peut se passer. Puis c'est ça vraiment qui m'a surpris à MLS, c'est que n'importe qui peut gagner contre n'importe qui. Donc c'est quand même impressionnant, mais c'est une bonne chose.
Samuel, si tu me permets, on va s'arrêter une dernière fois, le temps d'honorer nos commanditaires. Et on revient pour la suite de cette entrevue. Donc de retour pour la conclusion de notre entrevue avec Samuel Piette dans un petit moment.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Nous revoilà en compagnie de Samuel Piette, le numéro 6 cette année avec l'Impact de Montréal. Saison 2018 qui s'amorce demain contre les Whitecaps de Vancouver. La semaine prochaine déjà, Columbus encore à l'étranger. Puis premier match à domicile le 17 mars contre le Toronto FC. Vois-tu quelque chose de spécial dans le regard des jeunes que tu vois, des jeunes joueurs de soccer au Québec? Tu sais, toi, à ton époque, tu le réalisais pas. Puis je sais pas jusqu'à quel point le soccer professionnel te faisait rêver, tu semblais pas penser que c'était accessible. Mm-hmm. Penses-tu que pour le jeune Québécois moyennement doué sur un terrain de soccer aujourd'hui, il voit ça comme quelque chose de plus accessible que quand tu étais jeune?
C'est sûr. Aujourd'hui, là, avec l'Impact qui joue dans la Grande Ligue, la MLS, ça donne un rêve aux jeunes joueurs québécois ou un objectif de dire « moi, un jour, c'est là que je veux être ». Avant, quand l'Impact était dans la USL, NASL, là, je me souviens plus trop. C'était pas nécessairement la Grande Ligue. On connaissait déjà la MLS qui existait. Mm-hmm. Donc, on se disait, bon, ben, je vais peut-être pas nécessairement jouer là. Je vais jouer encore dans les plus grandes ligues. Avec le développement que l'Impact met aujourd'hui avec son académie, c'est encore plus facile de commencer dans les équipes jeunes de l'Impact et de graduer. Donc, non, je pense que l'Impact a fait en sorte que de donner un peu, de vendre du rêve un peu aux jeunes. Là, pis c'est important là, d'avoir ça.
Tu as signé avec l'Impact l'an passé, le 3 août 2017. On t'avait vu jouer avec la sélection canadienne, comme je le disais, où tu t'es bien démarqué. Mais c'était quoi le sentiment de jouer ton premier match de retour à Montréal devant quand même des milliers de spectateurs? Puis un bon match à part de ça, t'avais le feu au crampon.
Ouais, non, c'était spécial. J'étais un peu nerveux. Là. Je pense que c'était pas ma meilleure performance non plus. Mais c'est normal, premier match à Montréal, stade rempli, j'avais beaucoup de famille, des amis qui étaient venus au match. C'était spécial. Là. C'est sûr que moi, mon premier match à Montréal était avec la sélection en juin, où que j'avais presque 500 personnes qui étaient venues pour moi. Donc ça, c'était bien, mais de jouer avec un stade rempli là, sous les couleurs du bleu-blanc-noir, là, c'était encore plus spécial. Là.
Tu sais, au hockey, on l'a vécu souvent, puis des Québécois qui viennent dans un autre uniforme jouer un match à Montréal. Mais tu sais, dans le soccer, là, ça, on va commencer à le vivre de plus en plus, que toi, t'as vécu, puis on développe d'autres jeunes Québécois. Puis avais-tu la chair de poule? T'avais-tu des émotions particulières, même, je sais pas, pendant l'hymne national? C'est-tu un moment important dans tout ce que t'as vécu? Là, tu places ça où, dans toutes tes expériences de soccer?
Ah, c'est... La meilleure, honnêtement.
Ton premier match à Montréal dans l'uniforme?
Premier match à Montréal, ouais. C'est...
Ta meilleure?
Ouais, ma meilleure, je te dirais. Là. C'est sûr que, comme je dis, le match avec l'équipe canadienne en juin, en fait, là, c'était spécial, étant donné que c'était vraiment mon premier match. Ça faisait longtemps que j'attendais de jouer à Montréal, mais sous les couleurs du bleu, blanc, noir, l'équipe de ma ville, c'est encore plus spécial. Là. C'est surtout avant le coup d'envoi, où est-ce qu'on est sur le terrain, tout en position, puis... 5-10 secondes avec l'arbitre donne le coup de sifflet. On applaudit les fans se lèvent, nous applaudissent. Là, ça, c'est un moment spécial. Puis comme tu dis, j'ai encore la chair de poule là, à chaque match. Là.
Ça doit être quelque chose, tu sais, quand on repense à tout ton cheminement, là, tu t'en vas 14 ans en France. Mm-hmm. Là, tu quittes le domicile. Tu sais, puis tu fais ça incognito pas mal. Bon, il y a peut-être un journal régional qui en parle un peu. Puis de temps en temps, tu sais, bon, ici et là, on sait qu'un Québécois qui s'en va là-bas. Mm-hmm. Puis tu sais, tu disparais du radar pendant plusieurs années. Tu sais, Samuel Piette, là, il y a un an et demi, là, tu te dis, ah, c'est qui Samuel Piette?
Ouais.
Tu sais, va faire un vox pop sur le coin de la rue. tu sais, il n'y a pas grand monde qui va gagner ton prix, probablement. Là, ça vient de changer. Fait que c'était de sortir de l'ombre aussi. Puis il doit y avoir une satisfaction parce que quand on travaille aussi fort pour réaliser quelque chose, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit de devenir bon dans un sport, à un moment donné, tu veux le crier au monde entier que tu es assez bon pour jouer là. Hein?
Exact. Moi, je pense que quand j'ai signé à l'Impact, du jour au lendemain, je suis devenu une personnalité publique où les gens, comme tu dis, me connaissaient maintenant. Mais du jour au lendemain, je suis pas devenu un bon joueur. Donc, j'étais le même joueur qu'avant. Je me souviens même des fois, là, dans les journaux, à la télé, on avait un match avec l'équipe canadienne. Je me souviens, Maxime Tissot, Cal Ouimet jouait à l'Impact à l'époque, était invité en équipe nationale avec moi. Les journaux, les médias parlaient seulement de ces deux-là, même si moi, j'étais un Québécois. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois, j'avais un petit pincement qui me disait « Ben, mais regarde, moi aussi, je suis Québécois, on n'en parle pas, pourquoi pas? » Mais
tu pensais pour un Français. C'est exact. Comme la publicité d'Anthony Cavana, ouais, qui est fromage, là. C'est qui le Français qui...
Exact. Un Français, Allemand, Espagnol. Je sais plus trop, là. Mais, c'est sûr que ça me faisait un petit pincement au cœur. Mais bon, je me disais, peut-être qu'un jour, ça, je vais avoir la reconnaissance de mon travail. Donc, je dirais pas que c'est hypocrite parce que bon, c'est inconnu, en fait, d'avoir la reconnaissance d'aujourd'hui, d'être à Montréal. Puis les gens apprécient mon travail, là. Ça fait du bien.
Ce qui est important, c'est qu'avant que le public puisse te découvrir, c'est qu'il y a des gens qui savent ce qu'ils font, qui eux t'ont découvert, puis ont découvert ce que tu peux faire sur un terrain. Puis ça a été le cas toute ta vie, dans le fond, parce que dès 14 ans, on t'a identifié, puis ça a continué. Mm-hmm. Et la sélection canadienne t'a identifié. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu t'as joué avec les 17 ans, mais là, tu joues avec l'équipe senior, mm-hmm, là, depuis un bout de temps, de jouer pour le Canada, avec l'équipe de soccer du Canada. C'est tout un accomplissement, quand même.
Ça, c'est un des plus grands accomplissements que j'ai réussi, en fait, de jouer pour ton pays. Puis on sait comment le Canada est un grand pays avec beaucoup d'habitants, beaucoup de joueurs de soccer aussi. C'est pas une puissance mondiale, on va pas se le cacher, mais ça grandit de plus en plus de représenter mon pays là dans le plus grand tournoi, en fait. C'est un honneur pour moi là d'avoir la feuille d'érable sur mon maillot. Là.
Le fait que l'équipe masculine canadienne soit maintenant dirigée par un nouvel entraîneur, celui qui dirigeait l'équipe féminine, qui a connu de grands succès, mm-hmm, avec notamment Christine Sinclair, pour ne nommer que celle-là, mais il y en a tellement d'autres. Qu'est-ce que tu connais de John Erdman? Et est-ce que c'est insécurisant quand tu fais déjà partie de la sélection de voir un nouveau coach arriver puis te dire, bon, qu'est-ce qu'il va penser de mon jeu?
Honnêtement, je connais pas grand-chose, voire rien sur cet entraîneur-là. Je l'ai jamais rencontré. Bon, je le suivais à cause de l'équipe féminine. Je sais qu'il y a eu beaucoup de succès, mais ça a l'air d'un entraîneur qui a beaucoup de charisme, beaucoup de confiance en lui, dans ses habiletés. C'est sûr que quand tu as un nouvel entraîneur qui rentre dans une équipe comme la nôtre aussi, tout le monde repart un peu à zéro. Tu as des joueurs après qui ont des statuts, mais un joueur comme moi ou les joueurs qui viennent d'arriver ou qui étaient là depuis peu de temps, c'est vraiment, tu recommences à zéro. Donc, c'est un peu inquiétant, ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est un petit challenge de dire, bon, ben regarde, je dois encore prouver à cet entraîneur-là qu'est-ce que je suis capable de faire puis mériter ma place.
Quand tu joues un match avec le Canada et puis tu joues un match en MLS, y a-t-il une différence de niveau de jeu entre l'international puis la MLS?
Ça dépend des équipes que tu affrontes, mais si je compare à la Gold Cup de l'été dernier avec le niveau de la MLS, c'est très semblable. Beaucoup de joueurs de la MLS évoluent. En fait, beaucoup de joueurs de sélection nationale de l'Honduras, Costa Rica, même quelques joueurs du Mexique évoluent dans la MLS. Donc, le niveau se rassemble quand même assez. Et c'est ce que j'avais remarqué là quand j'ai joué mes premiers matchs avec l'Impact.
Hey, t'as seulement 23 ans, Samuel. Hein?
Oui.
C'est tout un bagage de vie que t'as déjà, pareil. Hein?
Oui, j'en ai beaucoup là, de bagages. Je pense que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Là.
Quoi les choses les plus... je sais pas si déjà t'es capable de faire cette introspection ou la rétrospective de ça, mais là où les choses les plus importantes que t'as apprises déjà là, dans ton cheminement de soccer là, dans les 8-10 dernières années... Là, les
en choses tant que joueur de soccer ou de personne?
Ben, les deux. Ben nous voir entendre les deux.
Ouais, ben en tant que personne, la débrouillardise, c'est sûr. Tu pars à 14 ans, t'es seul, oui, t'as quelqu'un qui s'occupe de toi un peu, mais... T'es laissé à toi-même. La discipline, toujours d'être là à l'heure pour les entraînements ou tu vas visiter un appartement, ben faut que tu sois là à l'heure. Non, je pense que le fait d'être parti si jeune m'a apporté beaucoup de maturité. Encore là, tu vois, c'est des petits trucs banals de cuisiner toi-même, de trouver un appartement, t'arranger pour avoir une voiture, tout ça. Donc, la débrouillardise, je dirais, c'est le gros truc. Puis, côté soccer, d'être polyvalent parce que en fait, moi, j'ai joué dans plusieurs pays, donc c'est un style de soccer différent, donc toujours de s'adapter puis de s'adapter au style de jeu de la place. Là.
Je me rappelle t'avoir accueilli l'an passé, peu de temps après ton arrivée, après ta mise sous contrat par l'Impact de Montréal, puis tu me révélais que, dans les petites anecdotes que tu nous confiais, que c'était très difficile de faire la transition, d'amener ton permis de conduire allemand à ce qu'il soit respecté ici. Là. Est-ce que tu as pu mettre de l'ordre là-dedans?
Non, pas encore. Il y a encore des petits problèmes. Là.
C'est si compliqué que ça?
Ouais, ben en fait, j'ai un permis allemand qui est bon, qui n'a pas de date limite. Puis en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre là, à ma dernière rencontre à la SAC, mon dernier rendez-vous, ont plus ou moins compris pourquoi il n'y avait pas de date limite. Puis ça veut pas trop...
Fait que t'es encore pogné là-dedans.
Ouais, là, en fait, là, j'ai
mon... toi.
Ouais, c'est compliqué, mais bon, je pense que ça va se régler. Là, en tout cas, je l'espère.
Si tu pouvais me dire ou partager, Samuel, là, je sais que les athlètes veulent pas, je pense que c'est quasiment instinctif, là, vous faites tous, puis on le fait aussi dans notre milieu, là, de la visualisation. Qu'est-ce que tu peux entrevoir comme scénario de rêve, le plus beau scénario que tu peux imaginer dans l'uniforme de l'Impact, peut-être cette année ou ces prochaines années, toi qui vas continuer d'être un joueur important de cette équipe-là?
Ouais, c'est sûr que le gros objectif, là, c'est de gagner la Ligue, en fait, la MLS Cup. Ça, c'est le le summum, en fait, je dirais, l'objectif principal du club, court, long terme. Je crois que cette année, l'objectif, c'est de faire les séries. Donc, se rendre en série, ça serait pour moi quelque chose de spécial, étant donné que j'ai jamais vécu ça vraiment. En Europe, c'était toujours tu termines la saison premier, ben, ça se finit là, tu montes de division ou tu descends. Ici, c'est vraiment, bon, tu termines premier, tu t'en vas en série. Mais non, les séries, j'aimerais ça expérimenter ça là, cette année-là.
Vivre les séries.
Ouais,
et je conclue avec peut-être aussi le rêve de participer à une participation à une Coupe du Monde avec l'équipe canadienne.
Ouais.
Si un jour on peut se qualifier à nouveau. Ouais. Avec Mauro Biello qui va joindre le personnel d'entraîneur, ça va être un visage familier quand
ouais.
même.
Non, je suis content pour Mauro. C'est sûr que je le connais bien de l'an dernier. Donc, l'avoir à mes côtés en fait en équipe nationale va être un plus pour moi, je crois. Et un plus pour l'équipe parce que je sais quel genre d'entraîneur il est. Mais c'est sûr que mon grand rêve, ce serait de participer avec à une Coupe du Monde avec le Canada, parce que je crois que ça, c'est le summum de chaque joueur là, de foot. Là.
Ça serait extraordinaire. Ouais. Samuel, je te remercie beaucoup pour cette heure passée avec nous. J'espère que tu vas vivre une belle année 2018, que comme collectif, vous allez nous faire vivre également, nous procurer de belles sensations. Bonne saison et bonne chance avec l'Impact.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Merci. C'était Samuel Piette, notre invité cette semaine. J'espère que vous avez passé de bons moments avec lui. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de journée à notre antenne. Je vous retrouve très bientôt, bien sûr, à l'antenne du 98.5.